Et ça, que Jésus revient bientôt? Ça fait-tu longtemps que vous dites que Jésus revient bientôt? Très longtemps, hein? Longtemps pour nous autres, peut-être pas longtemps pour le Seigneur. Mais il va venir un jour. Un jour! Et on a besoin d'être prêts. On a besoin d'être prêts pour ça. Alléluia. Amen. Il faudrait mettre le screen plus gros. OK. On veut parler un petit peu ce matin sur la famille de Dieu, l'importance de la famille, et on veut référer à la réunion de famille. Mais avant ça, on va lire dans Luc chapitre 4, et puis verset 16 à 21. Luc 4, verset 16 à 21. La parole du Seigneur nous dit ceci ce matin. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Hallelujah! Merci, mon Dieu, que tout est accompli en toi. Que tu as accompli, Seigneur, selon les Écritures. Que tu es venu, que tu es devenu notre Sauveur. Que tu as payé le prix pour chacun de nous. Que ce que ta parole a dit pendant des centaines et des centaines et des milliers d'années, la promesse qui a été donnée d'ailleurs au début de l'homme, après la chute, dans Genèse, Seigneur, merci pour cette promesse. Et tu as accompli ta parole et tu vas encore accomplir ta parole à la lettre. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, encore ce matin de célébrer ton nom, parce que tu es digne, Seigneur, de célébrer qui tu es. Merci, Seigneur, pour le miracle de la famille de Dieu. Bénis cette parole à nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Amen. Excusez, prendre un autre petit gorgée. La réunion de famille. Un membre de votre famille vous appelle pour vous dire qu'il va y avoir une réunion de famille la semaine prochaine. Qu'est-ce qui occupe vos pensées quand que vous recevez un message comme ça? Peut-être c'est bon, peut-être vous êtes excité parce que vous allez être réunis avec votre famille, vos frères, vos soeurs, parenté. Et peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Dépendant de la situation, ça peut être plaisant ou ça peut être pesant. Hein? Dépendant. Peut-être que dans votre cas, vous avez mon oncle Onésime qui est colérique. Et vous savez que ça va finir en chicane. Ou peut-être c'est ma tante Fernande qui parle toujours contre tout le monde. Ou peut-être c'est les enfants qui sont une terreur, grossiers, impolis, tannants. Et puis ça finit par pleurer. Ou peut-être c'est très positif. Mais vous savez, dans tout cela, pourquoi faire l'effort de se réunir en famille si c'est comme ça? Si on a de la misère, si c'est difficile, s'il y a des problèmes de différents personnages qui sont là, et pourquoi faire l'effort, anyway, de se réunir ensemble? Est-ce à cause peut-être que c'est une fête de quelqu'un, on va célébrer l'anniversaire de quelqu'un, peut-être ça va être le gâteau de fête, on y va pour le gâteau de fête. Ou peut-être c'est pour les cadeaux à Noël, on va aller parce que on va recevoir quelque chose, ou parce qu'à cause des cadeaux, à cause des décorations, ou on y va parce que c'est les œufs de Pâques au chocolat. On aime ça, puis on aime voir les enfants manger les chocolats. Est-ce que c'est pour ça qu'on se réunit? La réponse, naturellement, c'est non. On se réunit parce que nous sommes famille. C'est notre famille. Et on appartient à cette famille-là et on y va parce que c'est notre famille. Il faut être là. C'est important d'être là. Et j'ai eu une visite dernièrement de mon frère. Et puis ça fait 3 ans au moins que je ne l'ai pas vu. Puis il s'en allait à Caraquet avec son épouse, puis elle était nous voir, puis on a dîné ensemble chez nous. C'était merveilleux de voir mon petit frère. Encore, pourquoi? Parce que nous sommes famille, pas parce que mon frère est sans défaut. Il n'y a pas de problème, mais c'est parce que c'est mon frère. Nous sommes famille. Et après tout, que nous sommes famille, avec toutes les fautes, avec toutes les faiblesses qu'on peut y avoir et qui peut y exister dans une famille, mais c'est quand même ma famille. Et l'importance de se réunir. Vous savez aussi que Jésus avait une famille. Et c'est intéressant que ça dit au début de notre texte, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. C'était la place où il avait été élevé. Et puis, il avait été élevé avec une famille, il avait des frères et des sœurs dans sa famille. Et son père, sa mère, qui était là, Joseph, Marie, et il avait des relations aussi, des relations avec des amis, des relations de la parenté qui était là. Alors, il y avait cette famille et ces relations à la maison et aussi aux synagogues, de ce qui était très connu dans ce village. La famille était très connue également. Dans ce village, c'était très familier et tout le monde se connaissait. Il y a des places que tout le monde se connaît, des petites places. Justement, quand mon frère est venu à Grand-Sault, il ne savait pas exactement d'où je restais. Fait qu'il a arrêté sur le Broadway puis il a demandé à quelqu'un, il y avait une parade qui se passait, puis il a demandé à quelqu'un, « Connaissez-vous le pasteur Jean Lasanté? » c'est le voisin de mon frère. Il dit, il est juste à la rue Saint-Georges. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît quelqu'un, à quelque part, c'est petit. Et puis, on se connaît les uns les autres. Et alors, c'était comme ça pour Jésus. C'était pour, comme ça pour sa famille à Nazareth et ailleurs également. Mais après le baptême d'eau de Jésus, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus, sa vie a changé d'une vie privée à une vie très publique. D'une vie privée à une vie de ministère maintenant. Et le Seigneur a commencé son ministère. Et il est à la synagogue qu'on vient de lire ici, puis il annonce à tout le monde à la synagogue à Nazareth qu'il est le Messie. Wow! Après toutes ces années d'être élevé, la famille qui est là, et soudainement, il vient et il lit les Écritures dans la synagogue, et puis c'était son tour de le faire, et puis il annonce qu'il est le Messie. Il est l'accomplissement de ce qu'il vient de lire. Il dit ça, puis il dit, « Je suis l'accomplissement de ces Écritures, ces saintes Écritures que je viens de lire. » Alors, vous pouvez vous imaginer certainement que c'était une grande surprise pour les gens d'entendre ça, Jésus, qu'on connaît, c'est un bon petit gars, mais quand même, hein? Il dit que c'est lui le Messie. Alors, c'était un choc pour eux autres. Pour tout le monde qui était là, pour la parenté, même pour les Marie, même Joseph, même les frères et sœurs, c'était tellement un choc pour eux autres d'entendre Jésus dire ces paroles-là. Puis ensuite, il dit, un peu plus loin, il dit, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et la réaction était preuve qu'ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté ce que Jésus a dit. Et les gens aujourd'hui, non seulement qui n'acceptent pas qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que Jésus a dit, mais ils ne savent pas ce que Jésus a dit parce qu'ils ne lisent pas, ils n'entendent pas parler. C'est bien sûr qu'on a le média aujourd'hui qui prêche la parole. Ça, c'est une très bonne chose, mais pour lire pour soi-même, c'est une autre chose. Et alors, ça nous dit un peu plus loin dans Luc chapitre 4, versets 28 à 30, ça nous dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent. Wow! Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. C'était à ce point-là, mais Jésus passait au milieu d'eux. S'en alla. C'était pas son temps encore. C'était encore preuve qu'il est en charge, preuve qu'il est le Messie. Puis il a juste disparu. Il a juste parti au milieu d'eux. Mais il était en colère, en fureur. Puis il voulait le précipiter, il voulait le tuer. Les gens le connaissaient très bien, lui et sa famille, mais il était furieux et voulait finir avec sa vie. Mais vu qu'il est réellement le Messie, il a disparu. Jésus, je ne crois pas à ce moment-là, Jésus ne voulait pas détruire ses relations. Il ne voulait pas détruire ses relations avec sa famille, surtout. Il ne voulait pas détruire sa relation avec sa communauté, avec les gens qui étaient là, et toute la parenté, et toutes les amis, et toutes les gens qui étaient là, certainement pas. Ce n'est pas le but du Seigneur ici de vouloir détruire. Il voulait au contraire maintenant commencer à bâtir ses relations avec l'homme. Il voulait maintenant d'une nouvelle façon. Et c'est pour ça qu'il a passé au milieu d'eux, il a disparu parce qu'il a commencé son ministère afin d'ouvrir cette nouvelle façon d'avoir une relation les uns avec les autres. Ils voulaient bâtir des relations encore mieux, encore éternellement mieux que juste biologique. Juste qu'on appartient à une famille parce qu'on est né dans cette famille-là. Plus que ça, Jésus voulait bâtir une relation personnelle et il a bien dit, vous connaissez, « Je bâtirai mon Église ». Alors, Jésus voulait bâtir des relations. Êtes-vous heureux ce matin qu'il a bâti une relation avec vous? Amen. Je bâtirai mon Église. Et dans le chapitre 6, Jésus choisit ses apôtres. Ce n'est pas des sortes de gars normalement que vous choisirez pour partir une entreprise, pour commencer une business. Encore moins une organisation religieuse, encore moins choisir ceux qui vont le servir, ceux qui vont l'aider à exercer un ministère. Ce n'était pas les meilleurs gars. Nous autres, on n'aurait pas choisi ça, en tout cas. Mais Dieu est Dieu. Et il a choisi son groupe. Par exemple, il y a dans les apôtres qu'il a choisis, il y a un collecteur de taxes. Un collecteur de taxes, tu n'as pas très, très aimé. Il travaille pour le gouvernement. Le collecteur de taxes travaille pour les Romains. Même si c'est un juif, il a pris la job puis il collecte des taxes de ses frères et sœurs, des juifs. Alors, il n'est pas bien, bien aimé. Mais Jésus l'a choisi, un collecteur de taxes. Il y a un zélote, ça nous dit. Un zélote, qu'est-ce que ça veut dire? Un zélote, c'était non seulement celui qui est contre le gouvernement, mais c'est celui qui organise une organisation, organise des groupes pour être contre le gouvernement. Alors, vous en avez un qui est pour le gouvernement. Travaille pour le gouvernement, vous en avez un autre qui est contre le gouvernement, un zélote, et vous avez quelques pêcheurs, on va dire, des pêcheurs professionnels, on peut dire aujourd'hui c'est des cols bleus, ça travaille, et il y a là-dedans une coupe de fils d'un homme d'affaires, ça c'est bon, c'est comme un succès qui est là pour l'aider, mais si vous regardez tout le groupe des apôtres, il y a seulement un dans toute la gang, un dans tout le groupe qui est marié, l'apôtre Pierre. Le seul, puis un homme marié à cette époque-là, ça veut dire un homme qui est responsable, un homme sérieux. Et il était respecté de la communauté parce que c'est un homme marié avec une épouse. Il y a des enfants qui vont venir, ainsi de suite. Mais le seul, dans tout le groupe, dans toutes les autres, c'était des célibataires. Et des célibataires, ça veut dire... Est-ce que vous vous rappelez lorsque vous étiez célibataire? On n'a pas trop de témoignages à dire, à moins qu'on a grandi dans l'Église, mais même là. Même là, hein? Alors, le reste, c'est des célibataires. Quelle gang que Jésus a choisi. Mais nous voyons ici une vérité importante. Quelle est cette vérité? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Amen. Ce n'est pas nous autres. C'est lui qui nous a choisi. C'est lui qui vous a choisi. Ce matin, celui qui bâtit son Église, nous, vous, a choisi. Wow! Savoir que c'est lui, c'est pas nous. C'est pas nous. On peut pas se vanter du fait que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui qui nous a choisis, qui nous a appelés. On a répondu à l'appel. Alors, il y a un nouveau principe ici. On le voit un peu plus loin. Dans Luc chapitre 8, peut-être je devrais vous lire cette portion dans Luc chapitre 8, versets verset 19 à 21, ça nous dit ceci. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. C'est un nouveau principe maintenant qu'on voit, que Jésus introduit. C'est une nouvelle façon de s'identifier, c'est une nouvelle façon de s'associer l'un avec l'autre. Humain, homme et femme, les êtres humains. C'est une nouvelle façon que le Seigneur introduit maintenant. Je bâtirai mon Église. Et il introduit cette façon que nous pouvons maintenant s'identifier d'une autre façon que juste biologique. En tant que famille. Maintenant, juste, on peut s'identifier et on peut s'associer l'un avec l'autre plus, beaucoup plus, que juste se connaître comme amis ensemble. Ils ont maintenant, Dieu donne à l'Église, Christ donne à l'Église maintenant, aux enfants de Dieu maintenant, un homme et une femme maintenant, un nouveau but à la vie. Il nous donne maintenant une nouvelle raison d'être, maintenant. Et ce n'est plus basé sur la culture, ce n'est plus basé sur les coutumes, sur la langue, sur la nationalité, même pas basé sur les relations de famille. Non. Maintenant, c'est basé sur lui, sur Christ. Et maintenant, c'est une nouvelle façon de voir les choses, ce qui les unit ensemble maintenant, ce qui les lie ensemble maintenant, était la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'était lui maintenant. Que tout est centré maintenant sur le Messie. Tout est centré maintenant sur le Christ. Et la vie maintenant pouvait être centrée sur lui et lui seul, rien d'autre. Basé sur le roc. Jésus maintenant, il est en train de bâtir son Église. Et cela est basé sur sa personne, sur son œuvre, sur qui il est. Et le jour qu'il a annoncé qu'il est le Messie, il y avait de l'opposition, il y a toujours eu de l'opposition. Et aujourd'hui, l'opposition du diable est plus forte que jamais été à cause de qui il est. Le Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et nous sommes associés ensemble. On se connaît l'un l'autre ensemble, basé, centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un livre qui s'intitule « What if Jesus was serious? What if Jesus was serious about the church? » Imaginez si Jésus était sérieux à propos de l'Église. Et vraiment, il était sérieux. Et dans ce livre, l'auteur parle à propos des corporations et comment ils influencent nos vies aujourd'hui. Ce que nous mangeons d'ailleurs, de la façon qu'on s'habille, notre éducation, nos divertissements, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps et même comment le média et les corporations et les hommes de puissance, comment ils nous contrôlent notre vie, comment ils nous gouvernent. Et veut pas, ça arrive aujourd'hui. Et c'est à cause du média, à cause de toutes les inventions que nous avons à la portée de la main aujourd'hui, on est influencé, veut, veut pas, par ces choses-là. Il dit que dans les derniers 50 ans, les églises, petites ou grandes, copient les valeurs et les stratégies et les manières des corporations. On a copié certaines choses, certaines façons d'agir, certaines stratégies, certaines valeurs des grandes corporations. Pour la plupart de l'histoire de l'Église, si on y pense, si on regarde en arrière, le 2000 ans, dans toute l'histoire de l'Église, les pasteurs du début et les ouvriers du début dépensaient la majorité de leur temps dans la communauté. Dans la communauté. Ils apportaient avec eux la présence de Christ dans les foyers, dans les lieux de travail, sur les fermes, dans les usines, dans les hôpitaux. Ils apportaient la présence de Christ avec eux dans la communauté. Depuis le début, c'était ça. Maintenant, nous dépensons la plupart de notre temps à l'intérieur de l'Église, travaillant sur nos programmes, et l'œuvre du ministère s'accomplit lorsque les gens viennent à nous. Lorsque les gens viennent à nous. Et c'est qu'est-ce qui se passe généralement, je parle, aujourd'hui dans l'Église. Un autre auteur, Richard Halverson, le résume en ceci lorsqu'il dit « Au commencement, l'Église était centrée sur le Christ vivant. Ensuite, avec le temps, à la philosophie. Ensuite, à une institution. Ensuite, pour devenir une culture. Et finalement, elle a devenu une entreprise ou semblable à une entreprise. » Je sais que c'est une simplification de 2000 ans de l'histoire de l'Église, mais il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai là-dedans. Il y a une vérité là-dedans. Devrons-nous mesurer le succès de l'Église aujourd'hui par la croissance numérique? On dit toujours non, 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 pas nous autres. Mais aller dans des réunions, aller dans des congrès de pastoral. Et la première question qu'un pasteur va demander à un autre, combien vous êtes? Est-ce qu'on mesure le succès du Seigneur Jésus-Christ sur la croissance numérique ou comment les gens sont connectés à nos services? Aujourd'hui, on peut facilement être connecté, n'est-ce pas? Mais comment les gens sont connectés avec nous? Ou combien de gens écoutent la prêche par Internet? Est-ce qu'on peut mesurer avec ça? Est-ce que nous sommes l'Église que Jésus veut qu'on soit? COVID, certainement, nous a aidés à se regarder soi-même en tant qu'Église. Merci Seigneur pour cette Église. Merci Seigneur pour les belles bâtisses que nous avons. Mais dans l'Église du premier siècle, il n'y avait pas de bâtisses. Ils se réunissaient pareil, mais il n'y avait pas de bâtisse. Voyez-vous, 95% du temps, la bâtisse est vide. 95% du temps. Et il n'y a pas d'église qui n'a pas été affectée par COVID-19. Généralement, il y eut une bâtisse, une baisse. On nous dit généralement, si on regarde l'Église aujourd'hui en Amérique, il y a eu depuis COVID, depuis 2 ans, il y a eu une baisse de 30% dans l'assistance du peuple de Dieu dans les Églises, dans les 2 ans, 30%, au moins 30%. La société aujourd'hui a augmenté dans leur méfiance. Ça veut dire manque de confiance, méfiance. La société aujourd'hui se méfie de toute institution, de toute corporation, de toute compagnie, de tout politicien, n'est-ce pas? De tout gouvernement. Et même la loi, la police. Les gens ont très peu de confiance, ils se méfient. Et qui est inclus dans le paquet? Qu'est-ce qui est inclus dans tout ça? Mais oui, vous l'avez deviné. L'Église. L'Église est là-dedans aussi. Pourquoi je dis ça? Bien, rester à la maison pour travailler a augmenté beaucoup, n'est-ce pas? C'est des nouvelles, hein? Beaucoup de compagnies maintenant que les gens travaillent de la maison. Il y en a qui ont hâte de retourner au bureau, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui retournent juste un peu. Mais la majorité du temps, ils travaillent à la maison. Je sais que mon fils le plus vieux, lui, quand il y a des rendez-vous, il va en ville, il rencontre les gens, mais à part de ça, il travaille de la maison. Et alors, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça a changé et les gens ont manque de confiance dans les institutions d'aujourd'hui, gouvernement, politiciens et l'Église. Et alors, les hommes d'affaires appellent cet âge la grande démission. Pas la grande dépression, la grande démission. Cet âge, aujourd'hui, est reconnu comme ça par les hommes d'affaires, la grande démission. Le monde ne veut pas faire partie d'une grosse roue. Ils ne veulent pas être partie d'une grosse organisation. Ils veulent être connectés, oui, mais seulement par iPhone. Juste connectés comme ça. Et vous allez comprendre avec où je m'en vais avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable à cela qui se passe dans l'Église ou avec l'Église? Eh bien, nous autres, on n'a pas la grande démission. Mais on a qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens de pyjama. Avez-vous déjà entendu ça? Pyjama Christians? Je m'habillais un matin. Mais, les chrétiens de pyjama. COVID nous a habitués à rester à la maison et regarder un service en ligne en pyjama avec notre tasse de café. Hey, c'est le fun. Hein? C'est le fun de s'asseoir pour regarder quelqu'un prêcher à la télévision, pas besoin de s'habiller. Juste rester à la maison avec notre tasse de café. Mais l'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas une entreprise. Selon Jésus, l'Église n'est pas une entreprise, mais elle est une famille. Elle est une famille initiée par Dieu, ordonnée par Dieu. Ce n'est pas une institution. C'est une famille. Nous sommes une famille. C'est un endroit où nous pouvons grandir en maturité et grandir en responsabilité devant notre Jésus. C'est la place à être. Alléluia. Nous ne voulons pas seulement être connectés avec l'Église, mais c'est une place où nous pouvons être connectés avec le Christ. Disons, ça va nous aider. Ce n'est pas nos programmes, non, ce n'est pas nos chants, ce n'est pas la belle musique. Quoi que toutes ces choses-là, c'est une grande bénédiction pour l'Église. Mais c'est une place où nous pouvons toucher le ciel, nous prions, Seigneur, que nous pouvons ensemble toucher le Seigneur Jésus, toucher le Fils de Dieu ensemble et se réjouir ensemble que nous sommes une famille, la famille de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, comment que le monde va savoir? Comment est-ce qu'ils vont savoir? Par notre site web? Est-ce qu'ils vont savoir par nos événements? Est-ce qu'ils vont savoir par les différents ministères qu'on a? Oui, bien, c'est, merci Seigneur pour tout cela. Mais comment vraiment Jésus nous dit ici? Comment est-ce qu'ils vont savoir par notre amour les uns pour les autres? Ce n'est pas un mystère. Pourquoi qu'on se réunit? Pourquoi qu'on se réunit? Est-ce que c'est tradition? Bien, certainement, c'est une tradition, une bonne habitude. Pourquoi qu'on se réunit? Est-ce que c'est social? Bien, oui, c'est social aussi. Hein, c'est le fun de s'asseoir puis avoir une bonne fraternité ensemble, manger ensemble. C'est merveilleux, mais j'espère que ce n'est pas la seule raison que vous venez à l'Église, c'est à cause du social. Il faut que ça y aille beaucoup plus loin que ça. Est-ce que c'est le gâteau de fête pour lequel que vous vous réunissez avec votre famille? Ce n'est pas le gâteau de fête, c'est parce que vous faites partie de la famille. C'est pour ça que vous y allez. Chez mon oncle Onésime. Parce que vous faites partie de la famille. Et alors, par notre amour les uns pour les autres. C'est parce que Jésus a dit, nous sommes famille, c'est pour ça qu'on se réunit. C'est pour cette raison qu'on se lève le dimanche matin, se préparer pour venir à la réunion à 10 heures le matin. C'est pour ça qu'on enlève nos pyjamas, c'est pour ça qu'on s'habille, c'est pour ça qu'on brosse nos dents, j'espère, et on vient à l'église. Hein? C'est pour ça qu'on fait ça. Le chant dit, « Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. » Alléluia, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour adorer, c'est pour toucher Dieu, afin que Dieu me parle, afin que Dieu me donne une parole, afin que je puisse lui dire comment je l'aime. Nous venons dans ta maison, Seigneur, pour t'adorer. Alléluia. C'est la seule raison qui devrait être centrée et la centralité de votre cœur et de mon cœur ce matin pour t'adorer. Alléluia. Nous venons pour l'adorer et nous venons pour servir l'un et l'autre. S'encourager l'un et l'autre. Par des hymnes, par des cantiques, par des prières, par des prophéties, par des paroles qui peuvent nous édifier pour nous élever. Et on est là pour s'aider, s'appuyer les uns sur les autres, s'encourager en Jésus-Christ. Nous venons pour cela, pour s'édifier les uns les autres. Voyez-vous, ceci est une réunion de famille et nous ne voulons pas le manquer. Non. Non. Autant que possible, les réunions de famille, on veut y être. De la même façon que vous allez à une réunion de famille parce que c'est votre famille, de même pour la famille de Dieu. En parlant des chrétiens pyjama, nous réalisons qu'il y a des gens âgés ou des gens qui sont malades, naturellement, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas venir à l'église. Bien oui, on comprend ça. Puis le site web, c'est une bénédiction pour eux autres. Les ministères qui sont à la télévision sont là. C'est un ministère, c'est bien pour eux autres. Et c'est correct. Mais, c'est un gros mais, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur veut qu'on reçoive en regardant une vidéo ou en regardant un ministère sur l'Internet à la maison. Je ne crois pas qu'on peut accomplir ce que Dieu veut accomplir pour l'Église, vous comprenez? Pour la famille, sa famille, la famille de Dieu, ça ne peut pas se faire devant une TV. Nous devons nous aimer les uns les autres, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce que Jésus a dit? Amen. Qu'est-ce que la parole dit? Aimez-vous les uns les autres? Et nous devons nous aimer les uns les autres. Mais je veux vous poser la question, comment peut-on s'aimer les uns les autres en regardant la TV ou un site web? On ne peut pas. On ne peut pas s'aimer les uns les autres comme ça. Mission impossible. Il faut être en famille pour s'aimer. Il faut être ensemble pour s'aimer. Je bâtirai mon église. Il faut être ensemble. Je le sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai des fautes. Je sais que j'ai des faiblesses. Je sais que je peux dire quelque chose de travail des fois. Je sais des fois que je peux blesser quand je voulais bénir. Mais vous allez comprendre parce que vous êtes famille. On est famille. Et on s'accepte les uns les autres, n'est-ce pas? Parce qu'on est famille. On est des frères et sœurs en Jésus-Christ. Je bâtirai mon Église, dit Jésus. Est-ce que je peux vous inviter ce matin à faire partie de la famille de Dieu si vous ne l'êtes pas? C'est, je veux devenir faire partie de la famille de Dieu. Et c'est important que nous soyons connectés, non à une organisation, mais en tant que famille, la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En terminant, je vais demander à Robert de venir, s'il vous plaît, pour un chant. Terminer avec un chant, mais la question ce matin, c'est faites-vous partie de la famille de Dieu? Alléluia. Avoir un sens d'appartenance est un besoin très profond chez l'homme. Un sens d'appartenance. C'est ce que Jésus fait pour son peuple. Il veut nous donner un sens d'appartenance. Rappelez-vous le jour où le Seigneur vous a sauvé, peut-être. Rappelez-vous le jour où le Seigneur vous a délivré, vous a guéri, vous a touché, vous a béni. C'est en ce temps-là, au début de votre vie chrétienne, que Jésus vous a introduit à vos frères et à vos sœurs dans le Seigneur. Il vous a introduit à sa famille, voyez-vous. Lorsque mon épouse a été sauvée à Expo 67 dans une bâtisse. Mais ça n'a pas été long qu'elle était église. Parce qu'elle cherchait une famille. Un sens d'appartenance. Le but du Seigneur, c'est d'avoir une famille. Sa famille. Alors, nous venons ensemble ce matin pour l'adorer, pour servir l'un l'autre. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ô Père, que nous soyons centrés ce matin sur toi. Que la raison la plus grande dans notre cœur, dans notre vie, c'est toi qui as fait la différence et c'est toi qui fais la différence dans nos vies. Et on te remercie, Seigneur, quel amour que tu nous as prouvé, que tu nous as donné. On sait qu'on est aimé par toi, Seigneur. Et on te remercie pour cela. Mais Seigneur, ton commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Parce que ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'Église ensemble, je veux dire la vraie Église. Je veux dire l'amour, que l'amour coule, que l'amour du Christ coule dans nos cœurs, dans nos vies, les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec ça ce matin, levons-nous ensemble. Levez-vous avec moi et on va chanter avec Robert ce matin, célébrer son nom et adorer, surtout, adorons le Seigneur ensemble.